www.radio-g.fr.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport en ce mardi 18 juillet 2023. On est ravi de vous retrouver avec Cédric qui est à mes côtés. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut tout le monde, bah écoute, ça va un peu mieux hein, parce que là,
T'as eu un petit...
La semaine, ça a été un peu maladie sur maladie.
Bah, on l'entend à ta voix. Ouais, là, il y a un peu près du nez.
Il y en a encore. Ça, heureusement, on arrive à la fin, quoi.
Ouais.
Mais ouais, non. Merci la clim dans les trams en mode frigo. Je pense que t'as dû sentir mardi.
Oui, c'est vrai que
la différence studio dehors et tram.
C'est ça, parce que pour dire tout aux auditeurs, vous avez sûrement entendu parler des deux nouvelles lignes de tram, mais on a la chance, en tout cas Radio G, d'avoir une station vraiment juste à côté des studios. Et donc la semaine dernière, j'ai testé la ligne B ou C, je ne sais plus. Je crois que c'est la B.
C'est la B ici,
ouais,
je passe.
C'est ça, la B. Et du coup, effectivement, il y a, on sent la différence. C'était déjà dans les trams avant, hein, mais on sent la différence entre le dehors et le dedans. Et ici, en plus, dans les studios, on est obligé d'ouvrir les portes et les fenêtres.
Si
on entend des motos ou des voitures, c'est parce que.
Le tram, des fois qui
klaxonne. Donc c'est pour qu'on puisse respirer dans cette émission et pour qu'on puisse vous proposer la meilleure émission possible. Alors c'est vrai qu'avant de présenter l'émission, tu voulais faire un petit point sur un événement caritatif, je crois.
Oui, puisqu'on on l'avait évoqué il y a pas si longtemps que ça quand on avait fait notre émission sur l'e-sport et du coup. Ça arrive enfin, puisque dès vendredi 18h jusqu'à dimanche minuit, c'est l'événement Dream of Cast qui sera lancé. On va être une cinquantaine de streamers et streameuses à récolter des dons pour aider un refuge dont la particularité c'est de s'occuper des chats. Vous en doutez, hein. Comme tous les refuges, on est dans la période dite compliquée, hein, ouais. Puisque c'est l'été, il y a beaucoup d'abandon chez les animaux, hein, que ce soit les chiens, les chats, ouais. Même des fois on est étonné des oiseaux, voire des poissons.
Ouais.
C'est bien tout le long de l'année, mais bon, quand il faut partir en vacances, c'est plus compliqué, donc... On les abandonne. C'est aussi la période où il y a quand même beaucoup de naissances aussi de chatons, des choses comme ça. Forcément, c'est un coût, hein, pour une association. Puisqu'il faut les faire stériliser, mais il faut aussi les faire vacciner.
Les nourrir.
Les nourrir. Un contrôle aussi régulier, puisque des fois, et là, ces petites boules de poils, quand elles arrivent, elles sont blessées ou malades. Il y a aussi tout un travail, des fois, qui peut être fait avec des psychologues. Ouais. Si l'animal est hargneux,
méchant.
Donc voilà, le but de cet événement, ça va être d'essayer de récolter un max de dons pour aider cette association. L'association, que je me trompe pas, ce serait bête.
Ce serait bête de, effectivement, de se tromper.
Surtout de décorner, oui.
Décorcher,
oui.
tu vas nous retrouver ça.
Je vous retrouve dans mes notes.
Mais évidemment, c'est important de faire des dons, effectivement, comme tu dis, dans cette période compliquée où malheureusement il y a des gens, on va rester poli, mais des gens mal intentionnés qui abandonnent.
On peut le dire, des cons.
Des gros cons, en disons-le, lâchons-nous.
Faut pas rendre du terme, hein, je veux dire, c'est...
Tu as retrouvé le nom de l'association ?
Ouais, c'est l'EPA 28.
Ok, très bien. Donc, rappelle-nous donc la date, heure de l'événement.
Lancement, c'est à 18h. Ce sera de 18h à 18h30 à peu près sur une chaîne, puisqu'on fera le lancement tous ensemble pour présenter l'association, les enjeux, tout ça.
Ouais.
Et ensuite, en gros, dès 18h30, ce sera sur toutes les chaînes de ceux qui voudront commencer.
Et la date, du coup ?
Et la date, c'est vendredi.
Ok, vendredi. Allez vous brancher sur Twitch.
Voilà, puis n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, parce que on a la chance d'avoir des partenaires. Peut-être qu'il y aura aussi des petits jeux, des petits cadeaux à gagner. Si vous participez et que vous repartagez tout ça, ça peut aussi amener autant de visibilité à l'association. Les dons, c'est important, mais la visibilité l'est aussi encore plus.
Très bien. On suivra ça donc vendredi soir. Donc le programme de
jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche, très bien. Le programme de l'émission, on va d'abord évidemment faire une partie locale avec quelques résultats qui sont tombés, surtout l'intersaison notamment de plusieurs clubs, notamment au niveau du basket, mais aussi des très bons résultats en canoë-kayak et en athlétisme. Et puis au niveau international, on aura notre gros dossier de l'émission. Ça va se passer autour de l'Arabie Saoudite et de son mercato hyper agressif. Avec voilà de grosses recrues qui viennent d'Europe, on va faire le point sur tous ces transferts et puis on va parler un peu de l'avenir par rapport à ce championnat. Et puis je vous ferai une chronique en parallèle sur cette stratégie de soft power, mais surtout de sport washing qui concerne ces pays du Golfe. Je ferai notamment un point particulier sur le Qatar, puisque évidemment c'est lié avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et puis, on vous parlera de la Coupe du Monde féminine qui débute dans 2 jours et l'équipe de France qui jouera d'ailleurs dimanche son premier match.
Et puis, contre la Jamaïque.
Jamaïque, exactement. Et puis, on fera un point sur les 2 gros matchs qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Alors, il y en a un qui vient à peu près de se terminer, on va pas se mentir, même si c'est pas officiel. Mais voilà, ce match entre Pogacar et Vingegaard sur le Tour de France. Et on reviendra aussi sur la finale de Wimbledon entre Alcaraz et Djokovic. Voilà pour le programme, on va commencer sans plus tarder avec le sport local, festival de but au stade Omnisport de Cholet où les Maugeois ont battu dans un match amical les Angevins du SCO 5-4 alors que les deux équipes du Maine-et-Loire étaient dos à dos à la pause 1-1. C'est en deuxième période mais surtout en fin de match que la partie s'est enflammée. Après la 83e minute, 4 buts ont été inscrits avec 2 buts marqués par Cholet dans le temps additionnel. Côté Angevin, on retiendra les buts de Baoya, Capel, Shérif ou encore Abdelli. Un mélange entre jeunes prometteurs et cadres de l'effectif. Un effectif qui va perdre son meilleur élément avec le départ annoncé de Nabil Bentaleb au LOSC, l'Algérien originaire de la région. Alors dans l'autre sens, on a failli avoir un transfert inverse avec Jonas Martin qui était proche de rejoindre le SCO, mais c'est finalement le Stade Brestois qui va signer le joueur. Et puis à part de ce départ de Bentaleb, pas trop de mouvement ni de rumeurs à signaler du côté du SCO d'Angers, si ce n'est le refus de vendre à Anderlecht Yaya Fofana, le gardien scoïste.
Ouais, c'est un peu étonnant quand même le choix de pas revendre des gardiens, sachant qu'on sait qu'il y en a quand même pas mal au SCO, qu'il va falloir dégraisser, je pense aussi à ce niveau de ce poste-là.
Bah, ils veulent plus vendre Bernardoni que Yaya Fofana. Parce que
ouais,
Bernardoni,
mais bon,
il est un peu plus vieux, mais même s'il a que
20 ans. C'est bon. Ça, quelque part, ça en dit long sur les intentions, je pense, du club par rapport aux gardiens cette année.
Ouais.
S'ils veulent pas le vendre, c'est qu'il sera forcément titulaire, je pense.
Mais encore une fois, il faut trouver une porte de sortie à Paul Bernardoni.
Mais c'est ça, c'est...
Qu'on a recruté très cher,
c'est
évidemment.
C'est compliqué, je pense, encore ce dossier-là.
Bah ouais,
l'année dernière, c'était compliqué.
C'est un vrai serpent de mer. Quand
c'est ça,
ça revient chaque année.
Là, c'était lui qui jouait le match contre Cholet, du coup.
Normalement, oui, je crois.
Apparemment, le retour qu'il y a eu, c'est que c'était un peu le point faible, la défense avec le gardien sur ce match-là.
Bah, on a pris 5 buts, donc ouais. Oui, c'est clair que ça n'a pas été une bonne partie. D'ailleurs, Alexandre Dujeu qui a dit que c'était pas rassurant comme prestation. Il reste encore 3 matchs amicaux avec, je crois, Nantes. Le Mans, dans Laval ou Le Mans, je sais plus.
Le Mans. C'est, je crois, ce soir ou demain.
Ok.
Il me semble.
Et
Nantes après et Bordeaux. Ouais.
Et après première journée contre Laval au stade Francis Lebasser. On va continuer avec le basket. L'actualité autour de l'UFAB 49 est actuellement évidemment plutôt calme, même s'il y a pas mal de joueuses qui sont engagées, notamment dans des tournois internationaux avec les équipes de France jeunes. Le club angevin a tout de même, en tout cas pas le club angevin directement, mais en tout cas l'instance de la FIBA a officialisé la participation de l'UFAB à la prochaine édition de l'Eurocoupe féminin. Donc voilà, apparemment les sous qui étaient nécessaires pour participer à cette compétition ont été trouvés par le club de Brito de Souza. Et puis donc voilà, les Angevines qui connaîtront leur adversaire de la phase de groupe lors du tirage au sort le 9 août prochain. Donc on suivra ça pour voir si les Angevines ont peut-être une chance d'encore une fois passer les poules de l'Eurocoupe. Ensuite, on va passer du côté de l'EAB, l'Étoile Angers Basket, le Mercato qui est assez clos la semaine dernière avec deux ultimes recrues annoncées. On a Junior Tomba qui évoluera avec le groupe professionnel mais aussi un peu avec les espoirs. Il arrive en provenance de Chalon-sur-Saône, mais aussi on a l'arrivée de Kevin Marfaux, poste 4 ghanéen, qui débarque d'Italie après plusieurs années dans les universités américaines. Donc du côté de l'OAB, on a quand même un mercato assez jeune, on mise sur la jeunesse, ce qui était déjà un peu le cas l'année dernière, mais on continue sur cette lancée, voilà, pour un peu former un peu les jeunes du côté de d'Angers. Et il y a les Bouziane qui coach l'équipe U20 de Suisse, voilà, il sait s'y faire avec les jeunes. Il est notamment passé par l'académie Gauthier à Choulet, donc évidemment il sait de quoi il parle en ce qui concerne les jeunes. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça du côté de l'EAB. On va passer maintenant à l'athlétisme avec Amandine Brossier qui a signé le meilleur chrono de sa saison hier soir à l'occasion du meeting de Marseille. L'Angevine a terminé quatrième de la course du 400 mètres et va désormais se pencher sur les championnats de France qui se dérouleront à Albi dans une dizaine de jours. Alors faut savoir que si la sprinteuse du Sco Athlé parvient à conserver son titre, elle aura de grandes chances de prendre part au championnat du monde de Budapest en août prochain, puisque apparemment cette victoire pourrait lui la qualifier directement, qu'importe son chrono, pour le championnat du monde. Et apparemment, c'est selon Ouest France, ce serait une histoire de ranking du pays, voilà, un peu comme le coefficient FA sur le foot. En gros, voilà, si la France ne perd pas des places au ranking mondial, normalement, elle va être qualifiée pour le championnat du monde, si évidemment elle est championne de France.
Ça devient un fourbier, les qualifications à des événements comme ça en athlétisme.
Ouais.
Entre la fédération qui impose des quotas de temps, le niveau au-dessus européen qui impose aussi des quotas, mais par pays. Le mondial aussi qui impose des quotas. Enfin,
c'est compliqué.
Je comprends que les athlètes, des fois, elles en ont un peu marre et de se dire voilà, on a fait tout ça pour rien, mais
ouais.
Et là tu peux redonner son temps si tu l'as, je sais plus,
je crois que c'est 52 secondes 31 centièmes, donc voilà son record où j'en avais parlé la semaine dernière, on était sur 52 50, si je dis pas de bêtises.
Ouais, donc logiquement avec un temps comme ça, elle se qualifie pour les JO, quoi.
Pas du tout, c'est à 51 secondes. J'ai dit quoi?
T'as dit 52 là?
Ouais, j'ai dit 52, elle a encore quand même une seconde 31 à rattraper. Mine de rien. Donc, oui. Mais ça reste bien dans sa préparation pour les France et pour les mondiaux. Donc ça reste correct et puis ça reste encourageant. Parce que
faudrait vraiment voir.
C'est une athlète qui a quand même eu des problèmes récents, qui a mis du temps à revenir à la compétition. Donc,
faudrait voir vraiment tous les temps des différents meetings qu'il y a eu, ouais, par rapport à ça. Mais
ça a progressé en tout cas, ça c'est sûr.
Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que pour moi, elle atteint bien le cap, quoi. Enfin,
ouais.
Surtout si elle domine
sa discipline.
Sa discipline, voilà, c'est.
En tout cas, en France.
Oui, je te parle juste pour la sélection.
Oui, bien sûr.
Après, il faudra voir, oui. Pour l'Europe ou les mondiaux.
Ouais, ça va être plus compliqué, mais voilà, pourquoi pas.
Où est le gap, quoi.
On va parler maintenant de canoë-kayak, puisque l'actualité du sport angevin ne s'arrête pas pendant l'été, mais surtout, les athlètes angevins ne s'arrêtent pas de briller pendant l'été. La preuve en est avec les championnats de France de canoë-kayak qui se tenaient ce week-end du côté de Pause dans l'Eure. Le club angevin de l'ESAC y a d'ailleurs joué les premiers rôles avec en tête d'affiche son duo Pauline Frélon, Vanina Paoletti. Cette dernière a d'ailleurs décroché pas moins de 6 titres de champion de France, que ça soit en K1, K2 ou encore K4 sur de diverses distances. Tandis que sa coéquipière, donc Pauline Frélon, en a glané 5. Pour la course individuelle en K1 200 mètres, Paoletti termine première et Frélon troisième. Au niveau du canoë, Laszlo Casseron obtient l'argent en C1 500 mètres chez les U23, tandis que le lauréat de la Dame Angevine 2022, Jules Well, prend le bronze dans la catégorie junior. À noter enfin le bronze aussi en paracanoë de Emmanuel Leray et Julien Delaporte. Pour le club du Lac de Maine, c'est un palmarès historique puisque les AC se classent 4e meilleur club de France sur la compétition. Preuve que le club angevin possède dans son sein des athlètes parmi les meilleurs en France. C'est quand même des bons résultats. Ouais, on n'avait pas entendu parler des filles donc Frélon et Paoletti sur la saison et là ça revient fort.
Ouais, puis c'est comme on le sait, on est quasiment, on peut le dire, à un an des JO, quoi. C'est toujours intéressant de voir un club en juin qui progresse, quoi.
Là, on sent l'effervescence. On parle de Brossier, on parle de Paoletti, ça commence à.
Ouais, non, mais c'est.
Ça commence à venir, quoi.
Ça pousse à la porte, hein, comme on dit.
C'est exactement.
C'est intéressant. Puis c'est vrai que, enfin, c'est la période en plus agréable pour aller faire du canoë.
Évidemment, il fait beau, évidemment, ça fait toujours plaisir. On va marquer une courte pause, 20h20 sur Radio G. On va s'écouter Childish Gambino et son titre This is America. Et on se retrouve juste après.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah, yeah.
Ooh, get it, yeah,
yeah, yeah.
Work it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands.
100 bands.
Contraband.
I
got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Paco. Blah.
Ooh, America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Mama told me, get your money.
C'était Childish Gambino et son titre This is America. On est de retour sur Radio G 100.5 FM ou bien sur le site www.radio-g.fr. On est toujours dans Génération Sport. On va parler maintenant de sport international, de l'actualité internationale avec Cédric qui est avec moi. On avait prévu donc de faire un dossier, voilà, en gros un j'ai un petit débat, on va présenter un petit peu ce qui se passe, et puis je vais vous proposer une chronique qui va arriver juste après. Donc en gros, ça va porter sur notamment dans un premier temps l'attractivité de l'Arabie Saoudite et surtout son mercato assez agressif. Et on va dire assez comment dire, c'est vrai que c'est un vrai tournant, c'est-à-dire que on n'a plus des joueurs en fin de parcours, on n'a plus des joueurs sur la fin de leur carrière, on a vraiment des joueurs qui sont même parfois dans la pleine possession de leurs moyens.
On a tout type de profil maintenant.
C'est ça. Et donc l'Arabie Saoudite, en tout cas, voilà, la MBS Pro League, comme elle s'appelle, qui commence à attirer de plus en plus de grands noms. Donc ça va être assez intéressant d'en parler. Avant de débattre, Cédric, je vais présenter un petit peu d'ailleurs les plus grosses recrues qui ont été faites récemment. Au niveau des quatre gros clubs que sont Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal et Al Ahly. Pour commencer, donc Al Nassr, voilà, qui a été connu surtout avec la venue de Cristiano Ronaldo, multiple Ballon d'Or, 38 ans, qui venait de Manchester United. Ça a déjà mis un peu en valeur le championnat à ce moment-là. Et puis cette année, on a eu les arrivées de Marcelo Brozovic au milieu de terrain, 30 ans seulement, qui provient de l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions. Et puis ça s'est fait il y a pas longtemps, Seko Fofana, une vraie figure de notre championnat de France, qui à 28 ans a quitté le RC Lens pour rejoindre le club d'Al Nassr. Et là, Al Nassr qui apparemment ne s'arrête pas là et compterait faire notamment Moussa Diaby. Voilà, il compterait lui offrir évidemment un pont d'or pour le faire signer du côté d'Al Nassr. Et puis surtout, voilà, il a 24 ans, ancien parisien, qui joue aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Donc c'est vrai que ce serait un très beau move, comme on dit, de la part des Saoudiens. On a également donc Al Ittihad, qui était peut-être moins connu avant que Karim Benzema, l'attaquant de 35 ans du Real Madrid, n'arrive du club noir et jaune. Et puis on a eu un autre compatriote français qui l'a rejoint, N'Golo Kanté, seulement 32 ans aussi, de Chelsea, et plus récemment aussi Fabinho de Liverpool, 29 ans. À noter aussi que encore plus jeune, on a Jota, 24 ans, un peu moins connu. C'est pas Diogo Jota de Liverpool, c'est voilà, ce petit ailier portugais qui provient du Celtic Glasgow et qui faisait des merveilles du côté de l'Écosse et qui a rejoint Al Ittihad à seulement 24 ans. Donc c'est assez intéressant. Et puis on a également Al Hilal qui est un grand club, hein, là-bas dans le championnat saoudien, et qui a recruté Kalidou Koulibaly de Chelsea. Il avait fait d'ailleurs seulement une saison du côté de Londres. Kalidou Koulibaly qui avait peut-être encore quelques années à faire en Europe, il y a seulement 32 ans. Et puis deux jeunes recrues qui étaient vraiment aussi dans la pleine possession de leurs moyens. C'est Ruben Neves, 26 ans, du Wolverhampton, et Sergei Milinkovic-Savic, le Serbe de 28 ans, de la Lazio de Rome. La Lazio qui a terminé sur le podium de Serie A cette année. Et puis enfin Al Ahly, qui a signé notamment Roberto Firmino, 31 ans, de Liverpool, et Edouard Mendy, 31 ans, de Chelsea. Donc voilà, c'est du Moyen-Âge qui est quand même pas si haute que ça. Et puis au niveau sur les rumeurs, j'ai noté aussi Riyad Mahrez, 32 ans, récent champion d'Europe avec City, qui apparemment est en négociation avec Al Ahly. C'est pas encore fait, mais voilà, ça pourrait se faire rapidement. C'est vrai que quand tu vois ce mercato, tu te dis qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis que ce championnat, notamment, c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il va peut-être devenir intéressant à suivre pour nous Européens, soit dès cette année, soit peut-être dans plusieurs années?
En fait, déjà, on connaît pas trop le vrai niveau de ce championnat-là, en fait, dès le départ.
Ouais.
Donc forcément, je pense que avec tous ces joueurs connus, ça va mettre, tu sais, le petit engouement de se dire, on va aller voir ce que c'est.
Ouais.
Donc, je pense que déjà la saison dernière, avec l'arrivée de Ronaldo, ça a un petit peu commencé à titiller les gens d'aller voir. Là, avec des Benzema, on va parler de frappe de résonance sur les réseaux sociaux. Potentiellement, il va ramener un max de monde à s'intéresser à ça. Donc, je pense que la première année va avoir un pic de.
On rappelle que RMC Sport a racheté les droits en France de cette pour la diffusion de ces matchs.
Pour la saison à venir ou sur plusieurs années,
tu sais pas. Alors je sais qu'ils vont la diffuser la saison prochaine.
D'accord, ouais.
Je vais pas dire de bêtises si c'est 2 3 4 ans. Mais en tout cas, je sais que la saison prochaine, ce sera sur RMC Sport.
Après RMC Sport, on sait qu'ils perdent la Ligue des Champions. Donc quelque part,
eux clairement, ils ont.
C'est c'est un investissement. Je pense pas si cher que.
Ils ont des championnats un peu minoritaires parce qu'ils ont aussi.
Ils ont Portugal, je crois.
Portugal, c'est ça. Ouais. Et la première ligue qui est pas en exclusivité.
Ouais, mais je pense que la négociation, elle doit, en termes de chiffres, ça doit pas non plus coûter des milliers des cents. Comparé, par exemple, à une achète d'une Liga ou...
Oui, bien sûr.
Donc, il y aura sûrement un public pour.
Ouais.
Alors, en termes de visibilité, les matchs, c'est à peu près les mêmes horaires que nous, je crois.
Il y a un décalage horaire qui est pas
C'est ça.
Et ça, c'est peut-être à leur avantage, contrairement au championnat chinois ou
c'est
à
ça,
la MLS.
Ce sera plus accessible. Donc, sur le papier, forcément, ça va... Ça va sûrement aller peut-être les deux premiers mois. Je pense qu'il va avoir un énorme engouement.
Ouais.
Et on pourra peut-être voir une dizaine de matchs en deux mois, je dirais.
Ouais.
Je sais pas combien il y a de clubs et comment se joue le championnat, mais enfin, je pense qu'au bout de deux mois, on pourra déjà se dire ça vaut à peu près tel niveau.
Ouais, ok.
Et en fonction de ça, ou si les gens adhèrent, ça va continuer, forcément. Ouais. Après, voir réellement aussi le niveau des recrues. Parce que pour les jeunes, logiquement, ça devrait continuer à bien jouer. Pour ceux qui sont un peu plus anciens, est-ce que ça va pas être, on prend un peu l'argent puis on lève le pied?
Ouais.
Ou ça va être tellement facile pour eux qu'on va se retrouver avec des scores fleuves inimaginables. Il y a beaucoup de choses, je pense, inimaginables pour cette saison. Donc, difficile pour l'instant de se dire ça va être intéressant ou pas. Enfin, c'est...
Ok. Mais c'est vrai que potentiellement, après, je sais pas si ça va être ça, mais est-ce qu'on craint pas peut-être un investissement qui va monter en flèche et qui va faire qu'aujourd'hui, ça va peut-être être demain, quand je dis demain, c'est 2024, 2025, 2026, ce sera peut-être le sixième championnat, tu vois, mondial.
Ouais.
Peut-être devant le Portugal. Je sais pas ce que t'en penses.
Le truc, c'est qu'il va falloir voir au mercato d'hiver.
Ouais. Si ça continue.
Est-ce que ça va continuer ou pas? Mercato d'été l'année prochaine, forcément, ça va être, je pense, le baromètre.
Ouais. Pour voir si ça relance.
Si ça reste comme ça, on va quand même s'inquiéter, je dirais.
Ouais.
Pas forcément sur le nombre de recrues, mais sur les chiffres.
Ouais.
Et s'il y a une flambée, là, c'est la mort du mercato pour les autres clubs.
C'est ça, il y a un problème de concurrence qui est flagrant parce que c'est des sommes que les clubs européens, à part certains, ne peuvent pas mettre. Mais c'est vrai que c'est des questions. Après, il y a eu aussi la Chine qui a eu pendant un temps cette vocation de développer son championnat avec des gros joueurs qui sont venus quand même, Drogba, Anelka, je me souviens.
Ouais, mais c'était Oscar, porte-nom, tu vois.
C'était
pour les clubs, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça, mais surtout il y a eu une différence pour expliquer aux gens le frein au développement chinois, parce qu'on voit aujourd'hui que ça retombe un petit peu. Le frein au développement chinois, ça a été ce fameux salary cap qu'a mis en place la Chine et qui visait en gros à ne plus offrir des salaires déments aux joueurs, et ce qui n'est pas du tout le cas sur le championnat saoudien. Donc peut-être que ça va ouvrir des voies importantes.
Puis c'est ça, enfin, on va pas parler du UEFA parce que là on n'est pas dans cette configuration là, mais l'équivalent du UEFA dans les pays asiatiques.
Ouais.
Je sais pas s'ils ont instauré comme nous le
fair play financier.
Le fair play financier,
tu vois. Bien dépassé depuis.
Et là, et justement, c'est là, j'espère qu'il y en a un quand même.
Je pense pas.
Parce que sinon, là, c'est.
C'est la partout.
On ouvre toutes les vannes et puis bon,
C'est ça. Ce qui va peut-être être intéressant, alors évidemment, c'est encore une compétition de plus inventée par la FIFA, mais il y a eu cette Coupe du Monde des clubs annoncée, la nouvelle réforme pour 2025, une édition, je crois, tous les 4 ans. qui va, la première va se tenir aux États-Unis. Et alors, pour expliquer un peu, l'ancienne compétition, c'était les vainqueurs de Ligue des Champions, en gros, de tous les continents, des six continents. Eh bien, ils s'affrontaient. Et notamment, l'Européen, il arrivait qu'en demi-finale, avec deux matchs à jouer. Et là, il va y avoir beaucoup plus d'équipes. Il va y avoir, je crois, 32, avec 8 équipes, un truc comme une dizaine d'équipes européennes, et puis à peu près 4 par continent. Donc, est-ce que c'est pas aussi l'occasion pour cette compétition, même si on rappelle, voilà, moi quand j'ai lu l'article sur les contours de cette compétition, c'est vrai que c'est relou parce que c'est du calendrier qui s'allonge encore une fois. C'est surtout fait pour l'argent, on va pas se mentir. C'est ce qu'on a évidemment décrié plein de fois dans cette émission. Mais je me dis qu'aussi ça nous permettra de retrouver nos équipes, nos joueurs qui sont allés s'exiler pour potentiellement la compétition dans d'autres continents. Donc on pourrait avoir donc des équipes saoudiennes, on pourrait avoir des équipes de MLS, on pourrait avoir aussi des bonnes équipes du sud-américaine. Donc de ce côté-là, ça peut être intéressant et on peut arriver à un vrai foot global. Toi, qu'est-ce que tu en penses sur la compétition elle-même?
L'ancien format était quand même pas si handicapant. Ça pour les saisons, pour les clubs.
Oui, parce que du coup, souvent, c'était court, quoi.
C'était très court, et puis c'était soit sur les périodes un peu mortes du championnat, donc c'était prévu dedans,
ouais,
par rapport au championnat. Ou sinon, ça s'est joué sur des périodes où il y avait des matchs à l'international. Donc, c'était pas gênant. Là, ce format-là, un peu plus long, c'est un format comme...
C'est pour remplacer la Coupe des Confédérations. Parce que la Coupe des Confédérations se déroulait à une période un an avant la Coupe du Monde.
Ouais.
Et elle a été supprimée, je crois, du coup, dernière édition, c'était en 2013. Et du coup, ou en 2017, je sais plus. Et après, il n'y en a pas eu en 2021. Et il y en aura. Donc, celle de 2025 sera celle, la Coupe du Monde des clubs.
Après, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que ça. Ce soit déséquilibré.
Tu penses, même s'il y a plus d'équipes européennes?
Si tu mets plus d'équipes européennes, c'est. Il y a plus de clubs potentiellement en Europe, mais tu vois, ça. C'est un peu bizarre parce que je me dis, dans certains pays d'Afrique, comment ils vont faire pour décider comment. Ouais. Qui y va, tu vois. Je connais pas tous les niveaux des clubs en Afrique, mais bon, je pense qu'il y a des régions où c'est plus ou moins compliqué. Ouais. D'avoir un super niveau. Dans les pays latins, il y a 2-3 gros clubs, hein, généralement. États-Unis.
C'est quand même intéressant de voir les équipes européennes jouer contre des équipes dont elles n'ont pas l'habitude de jouer.
Après, oui.
On va pouvoir avoir pour ce
côté-là, vraie... oui. On aura vraiment un vrai tournoi pour savoir qui est le club champion du monde. Ça là-dessus, oui. Mais tu vois, c'est. Au final, c'est toujours l'argent qui va régir le truc, donc à voir.
C'est évidemment compliqué cette compétition. Voilà un petit peu pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui.
On sait qu'il y a eu des clubs. Il y a un club là qui est bloqué dans son recrutement actuellement. Là. C'est le club de Al-Nassr.
Al-Nassr, ouais.
Qui doit une partie de l'argent d'un transfert à Leinster.
Ouais.
Donc la FIFA, pour l'instant, leur a dit « Bon, vous payez ». Ils ont dit non. Ça a été au tribunal arbitral. Et ils doivent payer. Ils n'ont toujours pas payé. En tout cas, les derniers news que j'avais eu, c'était bloqué. Et du coup, ça bloque pour un transfert, par exemple, d'un joueur africain. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des petites limites à ça et que les autres instances, elles voient quand même ça d'un œil pas forcément, je pense, si intéressant que ça, parce que bon, pour que la FIFA dise « Oh non, mais vous bloquez », on sait que la FIFA, des fois, est très laxiste sur certaines choses. Là, je pense que c'est soit deux choses, c'est soit la FIFA dans l'idée... nous faire une Coupe du Monde là-bas.
Alors oui, par rapport à ça, la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, on voyait une candidature pour 2030. Ce sera finalement 2034.
Ouais, tu vois, c'est. Je pense que tu vois, ils disent bon, on va essayer, toi, de leur taper un petit peu sur les doigts maintenant. Comme
pour
ça.
Pour montrer une impartialité.
C'est ça, voilà. Et puis. On verra. Et après. C'est un phénomène en ce moment le sport pour l'Arabie Saoudite, parce que on voit là actuellement c'est le foot qui est exposé, mais ça fait quelques années que par exemple il y a la WWE qui a signé un accord de 10 ans
ouais.
pour aller faire des shows là-bas. Derrière l'image c'était de vous êtes les bienvenus, enfin on ouvre le pays aux autres cultures, on essaye de changer l'image qu'on a du pays. Le MMA aussi a été il y a eu des réunions de boxe.
Alors oui, le football dans le sens où, par exemple, la Supercoupe d'Espagne est organisée là-bas.
Voilà, enfin, on voit qu'il y a cette volonté d'ouvrir le pays par le sport, de changer l'image ouais. par le sport. Donc en soi, c'est intéressant, toi. C'est tout à l'heure ton honneur. Mais le problème, c'est qu'après, si on se penche un peu plus. Comment c'est financé
ouais.
Par qui? Est-ce que c'est si limité que ça ou pas? On se rend compte qu'il y a quand même des mâles d'argent.
C'est ça.
Et là, quand on voit tous les transferts, je serais curieux de faire le chiffre ouais, en total, fin de mercato et de comparer le plus gros club européen qu'on a recruté contre pas.
Ouais, ça.
Je pense que on n'est pas prêt à des chiffres. Et après. Faut voir quoi. Est-ce que il y a peut-être aussi un moment les joueurs aussi formés là-bas qui vont peut-être dire oh là, c'est bien gentil, mais nous aussi on veut bien te rémunérer parce qu'à mon avis avoir quand même une grosse différence
ouais, c'est sûr.
Entre un joueur qui sort d'un sport de formation qui est performant, on va dire, et puis une top star. Donc c'est à voir comment ça va se passer, et puis à voir comment les autres clubs. Qui sont pas concernés pour l'instant vont réagir aussi. Enfin, c'est
ouais,
peut-être qu'on aura des surprises. Hein, finalement, que les gros clubs qui auront mis des millions, ils finiront la saison sans titre ou
ouais, peut-être.
C'est ça. Après, il va falloir voir comment les joueurs vont s'acclimater aussi.
C'est ça. À l'environnement, la température, tout ça. En tout cas, t'as très bien introduit ma chronique sur cette stratégie de soft power et de sport washing notamment. Je vais commencer tout de suite. Si la stratégie de recrutement de l'Arabie Saoudite se veut, comme on le disait, de plus en plus agressive avec le marché des joueurs venus d'Europe, elle est elle-même en fait intégrée dans une stratégie plus large qui dépasse les terrains de football, une stratégie à laquelle on peut accoler le terme de soft power ou dans le cas précis de sport washing. Cette vaste opération utilisée par l'ensemble des pays du Golfe vise à améliorer l'image de chaque émirat ou état, comme tu le disais Cédric, et surtout à diversifier l'activité économique de ces derniers. Le cas le plus parlant reste celui du Qatar. Anciennement sous la tutelle du vaste pays saoudien, le Qatar, indépendant depuis 1971, a voulu changer de stratégie d'influence et s'émanciper de ses voisins sous l'impulsion notamment de l'émir Ben Khalifa Al Thani. En 1995, la chaîne de télévision Al Jazeera est créée. Un tournoi ATP est lancé à Doha en 93. Les Qatar Masters de golf arrivent en 98 et le premier Grand Prix de moto de Doha est organisé en 2004. En 2004, c'est aussi le lancement de l'Aspire Academy, un centre d'entraînement et de formation gigantesque qui vise à former les champions du monde qatari de demain. Enfin, les champions qatari de demain. Car le Qatar a à l'époque en rêve, organiser la Coupe du Monde de football, l'événement sportif planétaire. On ne reviendra pas évidemment sur les conditions d'obtention de l'organisation du Mondial 2022, puisqu'on en a déjà parlé plein de fois dans cette émission, mais la péninsule obtient son Graal en 2010. Mais attention, la stratégie d'implantation du Qatar dans le paysage sportif mondial ne s'est pas arrêtée là. Mondial de handball en 2015, championnat du monde de cyclisme en 2016, mondiaux d'athlétisme en 2019 et Grand Prix de Doha, Grand Prix de Formule 1, en 2021. Le comité olympique qatari s'est même fixé l'objectif d'organiser pas moins de 50 compétitions internationales d'ici à 2030. Bref, le but du Qatar est d'être présent quasiment partout où l'on parle de sport. Ces stratégies de soft power et de sport washing ont des limites qui concernent notamment la question des droits de l'homme dans ces pays-là, mais aussi la question de l'écologie, pas vraiment au cœur du projet de développement de ces puissances. Et puis, la pratique du sport n'est pas favorisée par les températures accablantes présentes sur place, ce qui a provoqué notamment le report de la Coupe du Monde 2022 à l'hiver. Enfin, sur le volet sportif, le Qatar, mais on peut aussi englober les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou encore le Bahreïn, ne parviennent pas vraiment à briller avec leurs athlètes locaux. Pourtant, ces quatre pays reviennent souvent dans les instances sportives mondiales et, comme on le disait, dans l'organisation de grandes compétitions. Les quatre pays que j'ai cités ont tous un Grand Prix de Formule 1. Ils possèdent tous un grand club de football européen et ou alors ils ont organisé un tournoi de tennis de plus ou moins d'envergure. Leurs économies quasiment illimitées grâce à leurs fortes ressources en gaz et en pétrole, mais aussi en commerce et en finance, permettent de pouvoir investir massivement dans l'industrie du sport. Et maintenant que nous sommes capables de placer ces pays sur une carte, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a une trentaine d'années, jusqu'où peut s'arrêter cette stratégie de sport washing? Donc c'est la question justement que tu voulais qu'on abordait tout à l'heure avec toi, Cédric. C'est que ça n'a pas de limite et que c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ces pays-là, s'ils sont autant implantés dans le sport, c'est dans un but précis d'améliorer leur image. Dans un premier temps, c'était surtout pour un peu se créer une image, parce que comme on l'a dit pour le Qatar, c'est un pays quand même fraîchement indépendant, qui était sous tutelle de plusieurs pays auparavant. Et voilà, c'est des pays qui veulent se mettre sur la carte du monde. Et par ces moyens-là, ils commencent à plus globalement construire des villes de luxe, à recevoir voilà des influenceurs, des politiques, des stars, etc. Et donc le sport est un moyen aussi pour eux de faire parler d'eux et de les mettre justement, comme je dis, sur la carte de l'échiquier mondial, j'ai envie de dire. Et il y a des vrais enjeux géopolitiques. En parlant de géopolitique, justement, pour être évidemment tout à fait transparent, je me suis basé pour écrire cette chronique sur le livre de Kevin Vessière, Mondial Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de football, aux éditions Max Milo. Donc évidemment, c'est un livre que je vous recommande fortement, parce que c'est vraiment très intéressant pour ceux qui sont fans à la fois de football, de petites histoires, et puis surtout de géopolitique. Et ça m'a permis évidemment de m'enseigner un peu plus sur ces stratégies de soft power et de sport washing. Toi, Cédric, effectivement, comment dire, on a aujourd'hui une stratégie qui est quand même qui veut nous faire oublier un petit peu tout ce qui se passe en mauvais du côté de ces pays-là. J'ai l'impression personnellement que dans ces pays-là, dans leur stratégie, on a tous les mauvais côtés, on va dire, du capitalisme. C'est-à-dire qu'on a pas beaucoup de respect pour les travailleurs qui travaillent dans des conditions difficiles, et on a du luxe, des riches qui s'enrichissent. Et on a ça du côté du golfe. Est-ce que justement il n'y a pas des limites à ce sport washing? On l'a vu avec le boycott. Est-ce que les gens vont pas commencer à s'imposer devant ça?
Il y a des limites, comme tout, mais est-ce que c'est des limites qui tiendront sur des années et des années, ou est-ce que c'est des limites périssables, j'ai envie de dire. Si tu regardes déjà ce phénomène-là, en fait, de mettre le sport en avant pour un peu défendre ses conditions, soit de travail, de façon de gérer sa population, de gérer ses problèmes de guerre ou des choses comme ça. C'est pas un phénomène nouveau, hein. C'est bête à dire, mais les plus beaux exemples qu'on a, c'est quand même les JO.
Ouais.
Les JO, en 33 à Berlin, ça a servi justement à montrer le côté, on va dire, positif de l'Allemagne nazie. Avec de très belles athlètes, avec des résultats, tout, pays organisé, enfin voilà, ça a masqué quelque part tout ce qui était lié à la politique d'Hitler.
Bien sûr.
Par rapport, voilà.
Pareil avec la Coupe du Monde 38 avec Mussolini.
Voilà. Pendant la guerre froide, il y a eu la Russie a fait la même chose en montrant une Russie victorieuse, très belles images. Ouais. Les États-Unis ont fait la même chose.
C'est ça.
À chaque fois, voilà, il y a eu un boycott des deux pays, mais on a utilisé l'image du sport pour monter au-dessus. Donc voilà, en fait, ce phénomène-là, il n'est pas si nouveau. J'ai l'impression que des fois, les gens s'étonnent, enfin, de voir ça maintenant, un peu le découvrent. C'est juste qu'il est peut-être plus bling-bling, j'ai envie de dire, maintenant, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent. Peut-être moins d'enjeux politiques, au final, pour certains.
Ouais. Alors, en tout cas, ça peut dépendre.
D'enjeux, on va dire, de conflits, guerre, voilà, enfin, c'est. Bah, c'est plus de la géopolitique, des histoires de qui aura le plus gros baril de pétrole à exploiter, enfin des choses comme ça pour.
À une certaine époque, quand même, le Qatar et l'Arabie Saoudite étaient en concurrence et ils ne s'aimaient pas trop. Il y a eu un blocus qui s'est terminé, je crois, en 2021. Et les relations se sont améliorées un peu entre
eux. Oui, voilà, non. Mais même là, récemment, je crois que c'est la Syrie aussi et l'Arabie Saoudite où ça a commencé à mieux se parler et tout.
Ouais.
Donc voilà, mais tout ça se fait parce que derrière, il y a ça aussi. Donc c'est une évolution. Il y a sûrement des limites, en chance, quand même. L'argent, hélas, heureusement, n'achète pas tout.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, le sport, faut pas se leurrer, le sport est un instrument politique. Peut être un instrument politique.
Et il le sera toujours.
Contrairement à notre cher président qui disait à la Coupe du Monde que le sport n'avait rien à voir avec la politique.
Non.
Que parfois, si.
C'est les deux peuvent se rejoindre.
Exactement.
Et prendre des voies différentes et se retrouver. Enfin, c'est.
Exactement. On peut le voir même avec la guerre en Ukraine et l'interdiction des clubs des clubs
voilà,
athlètes russes.
Le sport en soi n'est pas politique.
Mais
peut le devenir.
Peut le devenir. Exactement. En tout cas, c'est bien résumé un petit
c'est
peu.
C'est comme, on pourrait faire le parallèle avec le cinéma, avec les pièces de théâtre. Voilà, c'est le côté parti pris.
C'est ça.
Qui fait que ça en devient un instrument, quoi.
Ouais, exactement. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette stratégie de sport washing, notamment impulsée par l'Arabie Saoudite sur ce mercato. Vous donnez un petit peu, chers auditeurs, les clés pour comprendre un peu tout ce qui se passe au niveau du football mondial en ce moment.
Nous on veut bien être achetés aussi.
Oula. Mais authentique, c'est vrai.
On reste sur place, par contre.
Ah oui, on reste sur place.
Ou alors juste pour les vacances.
Ouais, peut-être. Hein. C'est vrai qu'il fait chaud là-bas. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec. On reste dans le football quand même avec le début de la Coupe du Monde féminine qui va débuter dans deux jours avec ce match, ce premier match entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Alors, ce sera à 9h du matin. Puisque voilà, c'est à l'autre bout du monde, c'est justement organisé en Océanie du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Alors le premier match, si vous êtes clefto, c'est quand même Nigeria-Canada, mais voilà, la cérémonie d'ouverture, c'est à partir de 8h30, et puis voilà, ce premier match à 9h, Nouvelle-Zélande-Norvège, qui va être plutôt intéressant. Et puis si vous voulez voir la France, ce sera dimanche à midi. France-Jamaïque pour ouvrir cette Coupe du Monde. À noter que la France est dans le groupe du Panama, mais aussi du Brésil, et donc de la Jamaïque, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça va être assez intéressant à suivre. À noter que Amandine Henry a déclaré forfait, qui faisait son retour depuis l'éviction de Corinne Diacre, et également Selma Bacha s'est blessée lors du dernier match amical perdu 1-0 contre l'Irlande. Et on ne sait pas encore si elle va pouvoir participer à cette Coupe du Monde. On sait qu'elle est forfait pour le premier match et on verra pour la suite. Mais voilà, c'est un élément fort qui est potentiellement forfait pour les Bleus. Est-ce que tu vas suivre un peu cette Coupe du Monde, Cédric?
On va essayer.
C'est le matin. Il faudra se lever tôt.
Oh, midi, ça va.
Ça va midi.
Par exemple, pour ce match-là.
C'est ça.
C'est bien. En plus, c'est dimanche avec le poulet frites.
C'est parfait.
Ça va remplacer Walker Texas Rangers.
C'est ça.
Non, mais après, ouais, on va essayer de suivre un petit peu. On sait qu'il y a eu un diffuseur en France, France Télévisions,
et
je crois M6, voilà. Donc c'est bien, au moins comme ça, on pourra suivre. Après, voilà, c'est ce qui m'agace un petit peu, c'est les matchs de préparation comme ça à la dernière minute, juste avant le début d'une compétition. On voit encore une fois des joueurs importants qui se blessent.
Des joueuses.
Enfin, joueuses, oui. Il y a même eu, je crois, c'est l'Irlande contre je sais plus quelle équipe, qui au bout d'une demi-heure a dit c'est bon, on arrête, parce que ça jouait tellement rugueux.
La Colombie, je crois.
Ou la Colombie, il me semble. C'était tellement rugueux qu'ils avaient déjà une joueuse qui était sur le trajet pour l'hôpital. Il y avait, enfin, limite, il y avait déjà des cartons jaunes à gogo. Ils ont dit stop. Et quelque part, c'est une très bonne décision. Ça préserve les athlètes. On sait que c'est par le passé, par exemple, l'équipe de France masculine. On se rappelle de la Coupe du Monde en Asie, hein.
Avec
Cissé qui se blesse dans le dernier match au Stade de France gravement. Zidane qui se retrouve avec un problème au genou, je crois, ou cuisse.
Coup dur.
Mais qui joue que le troisième match. Enfin voilà, donc qu'on préserve un peu les joueurs et les joueuses avant les grands événements.
On va passer maintenant au tennis avec ce match d'anthologie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le numéro 1 contre le numéro 2 mondial, tout simplement. Eh bien, l'Espagnol de 20 ans a détrôné, si on peut dire ainsi, le Serbe de 36 ans, qui visait d'ailleurs un grand chelem calendaire après avoir gagné les deux premiers grands chelems de la saison. Voilà l'Espagnol qui l'a emporté en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Match complètement fou de 4h45. Donc voilà, c'était assez dingue. Moi, j'ai pu voir à la fin du match, c'est vrai que les coups qui s'envoyaient, c'était n'importe quoi, quoi. C'était, je sais pas si t'as pu jeter un œil, toi, Cédric.
J'ai vu à partir de la fin du deuxième set.
Ouais. C'était du gros niveau, quoi.
87 minutes le set, quand même.
Ouais,
c'était impressionnant. Je pense que c'est là où il a bien construit
sa victoire.
Sa victoire.
Il a pris l'ascendant, quoi.
Ouais. Après, Djoko n'a pas démérité. Hein.
Ouais.
Mais bon, là, quand on le voit qu'il commence à s'énerver, généralement, ça passe pas derrière. Par contre, c'est là que je pense réellement à Roland Garros. Djokovic peut peut-être dire merci à la blessure qu'il avait à Alcaraz, parce que franchement, là, je le vois favori pour le prochain tournoi. C'est quand même l'US Open. Il l'a gagné l'année dernière.
Ouais.
Après le match qu'il nous a fait là, enfin le tournoi qu'il nous a fait, ça va être intéressant cette fin de saison. Et je me dis l'année prochaine avec les JO qui vont se greffer dans tout ça.
Ouais, ce qu'on parlait en off, c'est que ça va faire Roland Garros, Wimbledon, Roland Garros en à peu près 3 mois.
Ouais. Et derrière US Open.
Exactement. Plus les Masters.
Je pense qu'il y a peut-être des Masters qui vont sauter.
Peut-être.
Hélas, mais
non, ça va être intéressant.
Ouais.
Sinon, on va parler de Tour de France, puisque en ce moment c'est ce fameux tour, un Tour de France qui était vraiment très serré, vraiment très haletant, avec ce suspense entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Ce matin, il y avait que 10 secondes d'écart entre le Danois et le Slovène. Et puis il y a eu l'étape du jour, il y a eu ce contre-la-montre entre Passy et Combloux. Et Jonas Vingegaard a tout simplement assommé le Tour de France avec près de 1 minute 38 de gagné sur Tadej Pogacar. Alors vous me direz, Tadej Pogacar, il a complètement craqué ou quoi ? Eh bien non, Tadej Pogacar termine deuxième de la course. Il met d'ailleurs 1 minute à celui qui était leader à ce moment-là, c'était Wout Van Aert. Gros chrono de Tadej Pogacar, mais Jonas Vingegaard a fait encore mieux, a fait encore plus fort. Et aujourd'hui, le tour est quasi joué puisque il n'y a plus que, il y a tout simplement 1 minute 48 d'écart entre le coureur de la Jumbo-Visma et le coureur de UAE Team Emirates. Donc voilà, ça va être très compliqué de relancer ce suspense pour Pogacar. C'est vrai que t'as un petit peu regardé. C'était impressionnant, quoi. Il allait à une vitesse, je crois qu'il était à 40 km/h
moyenne. C'est impressionnant d'être à fond dès le départ jusqu'à l'arrivée. Bien sûr, ça commence à reposer des questions sur le dopage, soit médical ou technique. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu surprenant et interrogeant, j'ai envie de dire, c'est une domination comme ça. Bon, après, pour moi, voilà, c'est, il y a aucune preuve qu'il y a de la gruge ou du dopage. Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est que, on se rend compte que l'étape de samedi, elle a fait plus de dégâts que prévu, puisque avec la dernière ascension qui comptait quand même, beaucoup pour le classement.
Ouais.
On a quand même les deux hommes qui sont ensemble dans la dernière montée.
Pogacar qui attaque
en haut de la montée, et qui en fait se fait bloquer par deux motos. Voilà, une moto de France Télévisions, une moto de l'équipe qui prenait des photos, complètement à l'arrêt. Heureusement que les deux ont pu anticiper parce que sinon ils se les prenaient et c'était les deux qui chutaient. Enfin, c'est voilà. Ouais. Sauf qu'au final, bah, il n'y a pas eu d'écart. Il y a eu une seconde, mais en la faveur du maillot jaune.
Ouais.
C'est, je pense que ça va faire un peu tâche sur ce ouais. Tour de France.
Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On va suivre ça quand même. C'est ce Tour de France. Peut-être que Pogacar pourra relancer si c'est un grand champion. Ce Tour de France. On vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous et puis on va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est les plans de Vagabond. Et nous, on se dit à la semaine prochaine sur Radio G.